Luc 6, 36, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. » Connaissez ce texte. On sera servi à la mesure dont on sert les autres. Ça marche pour les bonnes choses. Le fait d'être généreux avec la personne qui est dans la difficulté, si l'on le fait, le Seigneur s'engage, lui, à nous verser la même mesure de grâce que l'on aura déversée sur la personne qui est en difficulté. Mais ça marche aussi sur les mauvaises choses. Si on est très généreux en critique et en méchanceté et en mauvaises œuvres, mais le Seigneur, il va agir de même envers nous, tout simplement parce que c'est la conséquence de ce que nous faisons. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir la mesure qu'il convient pour les choses dont nous parlons. Les bonnes choses, nous devons avoir une pleine mesure, nous devons avoir un cœur grand, un cœur plein d'amour pour notre prochain, et nous devons avoir un sérieux, nous devons avoir l'obéissance, nous devons avoir de la sainteté face aux choses qui sont mauvaises. Vous êtes d'accord? Parce que si nous le faisons comme cela, le Seigneur va manifester sa puissance. Et je crois que c'est notre désir à chacun que Dieu manifeste sa puissance dans notre vie encore davantage. Parce que nous avons ce désir dans notre cœur que Dieu se manifeste davantage. Quand on entend parler certaines fois des miracles qu'il y a eu, je lisais il y a quelque temps l'historique de ce qui s'est passé à Montauban dans les années 50, et il y a eu un réveil vraiment qui a eu lieu à Montauban, juste à côté. Et je crois qu'il y a eu des répercussions. Et puisque l'église a pu s'implanter par la suite à Moissac, c'est suite à ce qui s'est passé là-bas. Mais il y avait tellement de guérisons qui avaient lieu que le monsieur qui prêchait tout simplement la parole et qui priait pour les gens, on le surnommait le guérisseur. Et le pire de tout cela, c'est que son épouse est gravement tombée malade, il a prié pour elle, rien ne s'est passé. Elle a dû être opérée, elle a dû suivre le processus normal, on va dire, de guérison. Et là, il y a une sœur de l'église qui a eu la même maladie que son épouse. Il a prié pour elle et elle était guérie. Et sa femme lui a dit avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'intelligence, elle lui a dit « Le Seigneur permet que je sois malade pour montrer que c'est pas toi le guérisseur. Pour montrer que c'est Dieu qui est le guérisseur. » Mais il y a des choses qui se sont passées et qui nous font du bien quand on les lit et qui nous donnent cet aperçu de Dieu qui est puissant, qui veut agir, qui veut intervenir. Mais souvent, le problème ne vient pas de Dieu. Il y a un verset qu'on connaît bien, mais qu'on connaît peut-être pas dans la subtilité de l'original. Rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez ce verset? C'est juste avant, dans Luc chapitre 1er. Quand l'ange vient voir Marie et lui dit, car rien n'est impossible à Dieu, il lui annonce qu'elle va mettre au monde le Sauveur, le Messie. C'est une nouvelle qui a dû faire battre son cœur, je pense. Et il lui dit cette parole, rien n'est impossible à Dieu. C'est une parole qui nous fait du bien, mais littéralement il est dit, rien de ce que Dieu dit n'est impossible. Et le problème, c'est pas que Dieu ne dit rien, le problème, c'est pas que Dieu n'est pas puissant, le problème, c'est que souvent, nous, on a l'oreille un peu dure. Le problème, c'est que c'est souvent nous qui n'écoutons pas ce que le Seigneur veut dire et qui ne croyons pas que rien n'est impossible à Dieu. Mais moi, je le crois que le Seigneur est tout puissant. Il y a un homme que j'ai connu dans une église il y a quelques années en arrière. C'était un homme qui avait une vie bizarre, une vie qui n'était pas du tout en règle avec le Seigneur. Il était en concubinage avec quelqu'un, il faisait de la boxe, à tel point qu'à la fin d'un culte, une fois, il a voulu me boxer parce qu'il y avait eu un petit souci. J'avais dû reprendre son fils qui faisait un petit peu n'importe quoi. Et à la fin du culte, rempli du Saint-Esprit, enfin j'imagine, il a voulu me boxer. Bon, il n'a pas fait. Et puis, il est parti en Afrique, il est revenu. Et entre-temps, il s'était auto-proclamé prophète des nations. Rien que ça. Hein. Prophète des nations. Et il a créé un mouvement, entre guillemets, qui s'appelait, vous savez comment ça s'appelait ce mouvement? Ça m'a fait rire, moi, sur le coup. Ça s'appelait le réveil de la puissance de Dieu. Comme si la puissance de Dieu, elle était endormie. J'ai dit, mais il a rien compris, ce monsieur. Quel dommage. Il m'a fait pitié. Vraiment, il m'a fait pitié. Parce que c'est pas la puissance de Dieu qui est endormie. C'est nos cœurs souvent qui sont endormis. Et la puissance de Dieu, elle est là, elle est manifeste. Dieu, il est puissant. Dieu, il est toujours celui qui guérit. Dieu, il est toujours celui qui fait grâce. Dieu, il est toujours celui qui est capable de relever d'une parole. Maintenant, c'est à nous d'avoir ce cœur qui vient vers le Seigneur. Et le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu qui dort. Le problème, c'est que souvent, c'est nous qui limitons Dieu. Connaissez les goulots d'étranglement? Quand on va sur Toulouse, ça nous arrive quand on va en pastoral en particulier, d'aller sur Toulouse, d'arriver au péage. Vous savez, il y a le grand péage, il y a je ne sais plus combien, au moins une vingtaine de caisses pour passer au péage. Et puis après, il y a une seule route. Alors là, vous avez des centaines et des centaines de voitures qui doivent passer par une voie seulement. De 20 voies à une voie, ça fait un goulot d'étranglement, ça fait des bouchons pas possibles, rien que là. Je prends un exemple encore plus local. On va aux toilettes. On a eu cette semaine quelques Américains et à un moment donné, ils voulaient aller aux toilettes. Il y avait une toilette. Donc, vous imaginez ce qui s'est passé. Un embouteillage dans le couloir. Et voilà ce qui se passe. La puissance de Dieu, elle est infinie, elle est grande, elle est puissante. Mais souvent, c'est notre propre vie qui limite Dieu. Voire, quand notre cœur est carrément fermé, ben là, il y a rien qui se passe du tout. Parce que ce qui va dépendre que la puissance de Dieu se manifeste en nous, c'est si notre cœur, il est ouvert. Et il y a des qualités de notre foi qui doivent s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit et qui vont permettre à ce que notre cœur puisse s'ouvrir pour que la puissance de Dieu se manifeste. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est cette réalité que notre foi doit avoir une vitalité manifeste. On ne doit pas être somnolent dans la présence de Dieu, mais on doit avoir une énergie, une action. Le problème dans les assemblées de Dieu, là je parle de manière générale, c'est qu'on a tellement voulu insister sur le fait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, que les gens ils ont bien retenu cette réalité. On n'est pas sauvé par les œuvres, non, on est sauvé par la foi, par la grâce que le Seigneur nous donne. Et du coup on se croise les bras et on attend que le Seigneur fasse toute l'œuvre. Non, la foi qui ouvre le ciel, la foi qui permet à la puissance de Dieu de se manifester, c'est une foi qui est dans l'action, c'est une foi qui est en mouvement. Si vous lisez le chapitre 11 des Hébreux, vous savez, c'est le chapitre, on peut dire le chapitre de la foi, là où il y avait les héros de la foi qui sont décrits les uns après les autres, vous voyez que dans ce chapitre, il y a quelque chose qui se passe. Par la foi, ils font ceci. Par la foi, ils font cela. Par la foi, il y en a un qui offre un sacrifice. Par la foi, il y en a un qui marche avec Dieu. Par la foi, il y en a un qui tape avec un marteau sur des clous pour construire une arche. Par la foi, il y a des hommes qui se mettent en mouvement, qui vont de l'avant et qui agissent selon la parole que le Seigneur fait. C'est pas parce qu'il Noé a construit l'arche. C'est pas à cause de ça qu'il a été sauvé. C'est parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit encore une fois. C'est pas aujourd'hui on peut construire une arche. Vous pouvez essayer de le faire, hein. La même arche que Noé. C'est pas ça qui va vous sauver. Mais si le Seigneur vous appelle, et il le fait, à construire l'église, et que vous ne prenez pas le marteau et ni les clous, alors vous ne pourrez pas être sauvé. Parce que oui, le salut n'est pas par les œuvres, mais le salut nous pousse à faire des œuvres pour le Seigneur. Et la somnolence spirituelle, c'est un goulot d'étranglement. Des fois, on se plaint, oh, Seigneur, pourquoi tu ne guéris pas? Pourquoi tu fais plus de miracles? Pourquoi tu fais plus ceci ou cela? Mais le Seigneur, il a dit, donnez, et il vous sera donné. Donnez de votre temps, donnez de votre zèle, donnez de votre passion, donnez de ce que le Seigneur vous demande de donner. Je vous dis pas de venir à toutes les réunions, attention, ne vous trompez pas de compréhension. Je vous demande d'écouter ce que le Seigneur vous demande de faire. Jésus, il ne bénissait que les gens qui démontraient une pleine foi, une pleine vitalité dans leur foi. Quand le centenier est venu vers Jésus, vous savez ce qui s'est passé ? Jésus a dit, mais cet homme, quelle foi il a? Il a une foi grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cette foi que tu viens de démontrer au travers de ton attitude, au travers de tes paroles, eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. La femme qui était à la perte de sang, qui a dû traverser la foule, qui a dû venir malgré l'épuisement, malgré le moment où elle était totalement fatiguée. Vous savez, quand on perd du sang, on est dans cet état-là où on n'a plus de force. Il y a des moments où on n'a plus de force. Mais malgré ces moments où elle avait plus de force, elle a choisi d'aller vers le Seigneur, de le toucher, juste à peine le toucher. Et le Seigneur lui a dit, ta foi t'a guéri. Et voilà le problème, c'est que des fois, notre foi n'est pas suffisante. Nous montrons au Seigneur que nous n'avons pas beaucoup de foi. La foi, c'est, on a la foi dans l'invisible, on est d'accord, mais la foi, c'est quelque chose qui se voit. Ça se manifeste. On sait quand quelqu'un a la foi. On sait quand quelqu'un a cette espérance en Dieu. Il y a quelqu'un qui était à l'armée qui me disait qu'on voyait vraiment la différence entre quelqu'un qui était au Seigneur et quelqu'un qui ne l'était pas. Parce qu'il y en a un qui était dans la paix, même s'il y avait des moments où il fallait y aller au combat, même s'il y avait des moments qui étaient difficiles, où il fallait faire remplir la mission, il y en a qui restaient dans la paix. Et puis les autres qui étaient affolés, apeurés, bon, qui devaient y aller par coûte. Mais il y avait une différence qui se marquait. La foi, c'est quelque chose qui se voit. Et le Seigneur nous appelle à manifester cette foi. Et il nous demande pas de le faire pour nous embêter, mais il nous demande afin que sa puissance puisse se manifester dans notre vie. Je parlais il y a quelque temps avec une personne de plus de 90 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus de 90 ans ici? Non? Bon, on est tous jeunes. En tout cas, cette personne, plus de 90 ans, elle me disait, avec les larmes dans les yeux, elle me disait, combien je suis déçu parce que j'ai plus la force de pouvoir aller à la réunion de prière. Et elle était là, elle regrettait devant Dieu, elle disait, le Seigneur sait que je voudrais venir, mais j'ai plus la force, je suis fatigué le soir, je m'endors, il y a toutes sortes de choses, et on le comprend avec l'âge, il y a toutes ces choses qui se passent dans notre corps. Mais vous savez ce qu'elle me disait? Je peux pas rester comme ça. Quand j'arrive pas à dormir la nuit, je me lève, je me mets à genoux et pendant des heures, je prie le Seigneur. Dans ma cuisine ou dans ma chambre, peu importe l'endroit. Cette femme, pendant des heures, vous savez ce qu'elle fait? Elle prie. Elle prie pour sa famille. Elle prie pour les chrétiens de son église. Elle prie pour les pasteurs. Elle prie pour les âmes qui se perdent. Elle prie pendant des heures et des heures. Elle se met à genoux, à plus de 90 ans, à l'endroit où le Seigneur la voit. Et elle est utilisée par Dieu. Et croyez-moi, moi, c'est comme si j'avais pris une claque en pleine figure. Hein. Le Seigneur me dit, et toi, t'as un peu moins de 90 ans, qu'est-ce que tu fais? Où est ta foi et la vitalité de cette foi qui s'exprime? Oui, cette dame, elle n'est pas somnolente. Et je crois que le Seigneur, tant qu'il lui prêtera vie, lui permettra d'avoir cette force pour apporter ce sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Mais le Seigneur voudrait, pour manifester sa puissance, que nous lui offrions une foi pleine de vitalité. Vous savez, Jésus, à un moment donné, il a parlé de manière sévère, mais aux pharisiens, à ceux qui étaient dans cette religion qui était très, très, en apparence très bien, mais qui, dans le fond de leur cœur, étaient tellement mauvais. Il y a une image terrible qui est donnée par le Seigneur. Dans Matthieu 23, 27, je le lis pour vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors vous paraissez juste aux hommes, et au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est des paroles dures, hein ? On est d'accord ? L'image qui est donnée là, c'est les sépulcres. Ah, c'est sûr, quand on va dans un cimetière, il y a des belles pierres tombales, il y a des fleurs, c'est bien décoré, ça paraît joli. Mais au-dedans, c'est la mort. Au-dedans, c'est les ossements. Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans cet état. Le Seigneur, il tendait la main et je crois qu'il faisait référence à ce passage d'Ézéchiel 37, vous savez, la vallée d'ossements desséchés. Un ossement ne pourra jamais prendre vie si le Seigneur ne l'a pas dit. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par le souffle du Saint-Esprit, le Seigneur est capable même de redonner la vie aux ossements qui sont desséchés. Et si notre foi en était arrivée à un point où nous avons seulement une façade, mais à l'intérieur c'était la mort, le Seigneur est celui qui est capable par son esprit de redonner vie à tout cela. Il n'est pas dépassé, il n'est pas épuisé le Seigneur. Il n'y a aucun problème qui est trop difficile pour lui, mais le Seigneur est celui qui veut manifester sa puissance. La seule chose, c'est que certaines fois, il faut dire oui Seigneur, je reconnais que c'est comme ça. Seigneur, je reconnais que moi j'ai plus que la façade, mais je veux que Seigneur tu remontes la vie dans mon être tout entier. Combien de fois Jésus a-t-il déclaré, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Jean 3,16, qu'est-ce que ça dit? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, la vie de Dieu se manifeste pour une personne qui croit, une personne qui a la foi, et une personne qui a cette qualité de foi qui se manifeste de manière vraie, de manière concrète. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que dans notre foi, il y ait cette vitalité manifeste. Il faut qu'il y ait cette action. La foi est agissante par l'amour, nous dit les Galates au chapitre 5. Et on pourrait multiplier les exemples, les œuvres de la foi. Là, la foi sans les œuvres est morte, etc. Vous connaissez tous ces passages. Je ne veux pas insister. Mais je voudrais quand même que nous puissions réaliser et nous poser la question, Seigneur, comment est ma foi devant toi? Pour que Dieu répande sa vie, c'est ça qu'il faut lui offrir. Donner, Donnez à Dieu aussi, et il vous sera donné. Parce que des fois, on n'a que la vision humaine. On donne à nos frères et sœurs, on donne ceci ou cela, mais à Dieu, on oublie de donner. Non, donnez à Dieu aussi, et il vous sera donné. Je ne parle pas de la dîme, là, c'est pas ça dont je parle. Je parle du temps, je parle de notre vie. Oh, quelqu'un va me dire, oh, mais moi, je viens au culte, c'est suffisant le culte. Oui, le culte de notre vie, c'est suffisant, mais c'est tous les jours. Le vrai culte qu'on en doit rendre à Dieu, c'est celui de notre vie. Et je calculais, alors excusez-moi, j'ai fait des calculs, j'aime bien les maths. 1h30 par semaine, j'ai calculé le culte à peu près. Quand on arrive à l'heure et quand on s'en va jusqu'au dernier bout, 1h30. La semaine, ça représente 168 heures. 7 fois 24, d'accord ? Je sors les 8 heures de sommeil par jour, donc c'est pas mal quand même, 8 heures de sommeil. Hein. Tout le monde ne dort pas 8 heures. Je sors 35 heures de travail par semaine. Il y en a qui travaillent plus, mais bon, on va dire que c'est encore ça. Ça nous laisse 77 heures. 1,5 sur 77, vous savez combien ça représente ? 2%. Voilà le culte que nous rendons à Dieu. Et on peut dire, Seigneur, ça c'est suffisant pour toi. 2% de mon temps libre, je te le remets, et après tu vas me bénir avec puissance, hein, par contre. Vous croyez que devant Dieu, on va pouvoir faire un calcul comme ça ? Avec assurance, Seigneur, maintenant tu me bénis parce que tu vois combien je t'ai consacré du temps. On a besoin d'être sérieux avec ces choses, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à venir au culte, oui, à venir aux réunions, mais il nous appelle aussi à passer du temps, jour après jour. Et je vous pose la question, mais je ne vous demande pas d'y répondre. Combien de temps, hors réunion, vous consacrez à Dieu ? Parce que ça montre la vitalité de votre foi. Combien de temps vous consacrez à Dieu ? Vraiment ! Vous savez, des fois, on se contente de lire juste le feuillet du Trésor quotidien le matin. On se dit, ah, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon culte. Je connais une personne qui en venait même jusqu'à lire plein de livres qui parlaient de Dieu, qui parlaient de la foi, qui parlaient de ceci ou cela, et qui ne lisait plus la Bible. Les livres, c'est très bien, c'est des grâces, mais le livre qui fait du bien et qui nourrit, c'est la Bible. Le reste, c'est que des explications. Est-ce que vous êtes nourri quand vous lisez un livre de recettes de cuisine qui vous parle de comment utiliser les aliments pour les uns avec les autres pour... C'est pas ça qui est suffisant pour manger. Hein. Il faut manger à un moment donné. Il faut pas seulement lire le livre qui explique comment manger. Il faut manger. Il faut se nourrir. Ma parole est une eau nourriture, a dit le Seigneur. Et si nous voulons que le Seigneur manifeste encore davantage, il a commencé déjà, mais si nous voulons que le Seigneur manifeste encore davantage sa puissance dans chacune de nos vies, de manière personnelle, dans les épreuves que nous traversons, alors il faut que nous apprenions ce principe qu'il faut donner pour que Dieu puisse nous donner. Quelqu'un a dit, la foi c'est une force pour observer l'invisible. Il faut qu'à notre foi nous ayons cette vitalité concrète, réelle, mais il faut aussi qu'on ait une vision qui soit renouvelée, une vision de Dieu. Il ne faut pas que nous fassions un Dieu à la mesure de notre petite foi, mais il faut que nous montrons notre foi à la mesure du grand Dieu que nous avons. Vous voyez la différence ? Des fois, on a notre petite foi et on imagine un petit peu comment Dieu va agir dans nos circonstances avec notre réflexion à nous. On ferait plutôt mieux de regarder à Dieu et de regarder combien il est fort, combien il est puissant, combien il est capable d'intervenir, combien il a déjà fait ceci ou cela dans notre vie et que notre foi puisse commencer à grandir et grandir et grandir et se mettre à la mesure de l'immensité de notre Dieu. Et de cette manière, la grâce de Dieu peut se manifester en nous. Dans le désert, le peuple d'Israël, il nous montre quelque chose de remarquable. On peut lire dans Exode 32 quelque chose sur l'attitude qu'a eu ce peuple. Vous savez qu'ils ont vu les miracles, les 10 plaies d'Égypte. C'était quelque chose d'incroyable à voir. Ils ont vu la mer s'ouvrir en deux pour les laisser passer et se refermer sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Quelque chose de magnifique. Exode chapitre 32 verset 1. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, alors que Moïse était sur la montagne, le peuple était là, il attendait, un petit peu impatient, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà ce qu'il faisait. Exode 32, verset 1er, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. On peut dire Amen parce que c'est la parole de Dieu, même si c'est un moment critique de cette histoire du peuple d'Israël. Je crois que c'est un moment des plus critiques. Eux qui ont vu de tels miracles, eux qui ont vu de telles choses se passer. À un moment donné, ils disent, mais maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on se fasse un Dieu. Ils ont fait un Dieu à la mesure de la vision qu'ils avaient de Dieu. Et le résultat, ça a été un veau d'or. Le grand Dieu tout-puissant qui a dans sa main le ciel, la terre et tout cet univers, ils l'ont réduit à l'image d'un veau d'or. Et vous savez quoi, le pire de tous? C'est que c'est un animal qu'ils avaient l'habitude de s'occuper tous les jours. Tous les jours, c'était des gens qui étaient des bergers, qui s'occupaient des brebis, mais qui s'occupaient aussi des bœufs. Ils avaient l'habitude d'élever les bœufs. Et le dieu qu'ils ont choisi de faire, l'image qu'ils ont choisi de représenter, c'était un veau. Ça montre le mépris et l'image tellement réduite et petite qu'ils avaient de Dieu. Et certaines fois, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre vision de Dieu parce que nous voyons Dieu trop petit. Le Seigneur voudrait agir, le Seigneur voudrait bénir, mais nous avons besoin que notre vision s'élargisse. Nous avons besoin que notre vision soit renouvelée. Nous avons besoin de laisser le Seigneur faire cette œuvre dans notre cœur. Dans Exode, on continue dans Exode, mais au chapitre 20, verset 18, juste après qu'ils reçoivent les 10 commandements, juste après, il y a eu un moment particulier dans leur histoire, et ça nous montre quand même que la façon dont ils ont réagi par la suite, c'est parce qu'ils ont oublié ce qu'ils avaient entendu. Exode 20, 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu? Amen. Qu'est-ce qui peut faire qu'on a une mauvaise vision de Dieu, comme ça a été le cas de ce peuple? Ce peuple s'est arrivé à un moment donné où il avait perdu la vision du Dieu grand et puissant, parce que ils n'ont pas gardé la crainte de Dieu devant leurs yeux. Quand on ne garde pas la crainte de Dieu dans notre cœur, alors notre vision est corrompue. Alors on se fait une image de Dieu qui n'est pas celle du vrai Dieu. On se fait une image de Dieu qui, oh non, le temps des miracles est passé. Il ne guérit plus aujourd'hui. Il n'y a plus de paroles de connaissance. Non, non, ça c'était pour un autre temps. Mais ça, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est celui qui va se manifester, qui va répandre son esprit sur la personne qui vient venir à lui, qui va manifester sa foi avec vitalité. Aspirez aux dons spirituels, est-il dit. Aspirez, ayez brûlé d'amour, de zèle pour les dons spirituels. Et alors le Seigneur va vous envoyer les dons spirituels. Mais si on ne les désire pas, alors on se fait un Dieu à la mesure de notre petite foi. Un petit Dieu, une idole. Mais ce n'est pas le grand Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ces personnes, ils ont été libérés de l'esclavage, mais dans leur cœur, ils étaient toujours esclaves. Ils étaient toujours esclaves de leur façon de penser. Ils étaient restés esclaves de la dépendance à leur intelligence. D'où vient le fait que l'on perd la vision de Dieu? C'est parce que notre foi n'est pas basée sur ce que Dieu fait dans notre vie, ni sur sa parole. La parole a été claire. C'était quoi le premier des 10 commandements? On les connaît par cœur, les 10 commandements. Le premier, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, donc c'est déjà pas mal. Et le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Eh bien, les deux ont été balayés en quelques secondes parce qu'à un moment donné, ils ont été impatients, ils ont commencé à réfléchir. Qu'est-ce que ça serait bien qu'on l'en fasse? Frères et sœurs, laissons le Seigneur nous donner la vision de qui il est. Et vous savez comment c'est possible que notre vision soit renouvelée, que notre vision soit élargie? Mais c'est de faire comme Moïse, c'est pas faire comme le peuple. Le peuple, lui, il s'est éloigné. Non, non, on ne veut pas avoir le contact avec Dieu, toi, sois l'intermédiaire. Le seul intermédiaire que nous devons avoir entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Et en plus, cet intermédiaire-là nous pousse, nous demande de nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus, pour avoir pour trouver le repos, pour trouver tout ce dont nous avons besoin. C'est ce Seigneur-là qui nous pousse dans la présence du Seigneur. Moïse, il s'est approché de Dieu. Et lui, il a gardé cette vision d'un Dieu puissant. Quand il s'est approché, vous savez, c'est à ce moment-là que Dieu lui a révélé tout ce qui concerne le tabernacle, tout ce qui concerne les sacrifices. Jusqu'à ce moment-là, les gens n'offraient pas des sacrifices, ou ils le faisaient de manière spontanée. Mais alors que Moïse s'est approché de la nuée, alors que Moïse est venu dans la présence de Dieu et qui a eu un cœur à cœur, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a révélé à Moïse ses plans. Dieu a ouvert l'intelligence de Moïse pour qu'il voit, et dans tout le tabernacle, je vous passe les détails, vous lirez le Lévitique si ça vous fait plaisir, mais vous comprendrez que toutes ces choses ne sont que des images du sacrifice de Jésus qui allait mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Et Moïse déjà avait une révélation de ce que Dieu allait faire, une manière prophétique, il voyait ces choses-là parce qu'il s'est approché de la nuée. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas besoin encore ce matin de nous approcher de la nuée pour que le Seigneur ouvre notre esprit, ouvre notre vision, et que on puisse garder sous nos yeux la crainte du Seigneur. Marie, quand elle a reçu la visitation de l'ange, elle a dit quelque chose d'incroyable. Elle a dit « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est-à-dire la parole que l'ange lui avait dite, mais la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pas qu'il me soit fait selon mon intelligence, selon mes pensées. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Voilà une vision qui est bonne. Quand on appuie toute notre vie sur la parole de Dieu, sur le respect de sa parole. Ce n'est pas nos pensées qui doivent limiter Dieu. Et c'est souvent ce qui arrive. Mais c'est la parole de Dieu qui doit ouvrir notre vision, ouvrir notre foi. Donnez, et il vous sera donné. Et je termine avec cette pensée que ce qui limite l'action de Dieu dans notre vie, c'est aussi quand nos désirs sont plus forts que notre volonté. Dieu demande une foi qui est avec une volonté qui soit purifiée. Parce que bien souvent, notre foi, elle est contaminée par notre volonté qui cherche à assouvir que nos propres désirs. Mais la volonté de Dieu, elle est révélée dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a une pensée particulière. Dans le monde occidental, je parle, pas forcément dans les pays persécutés, les pays pauvres, mais dans le monde occidental, il y a une pensée qui est très forte et qui domine et qui est en train même de commencer à contaminer la foi de beaucoup. Vous savez, c'est quoi ? C'est quand on recherche avant tout notre confort, notre plaisir. On refuse l'idée de souffrir, l'idée de faire des efforts. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Et bien sûr, on ne va pas se plaindre contre tous les progrès qu'il y a eu, que ce soit la science, que ce soit la médecine, etc., qui permettent de moins souffrir. Au contraire, c'est des grâces. Mais on en est venu à un tel point que maintenant, dès qu'on souffre un petit peu, dès qu'il faut se faire un petit effort, on refuse cela. Mais le Seigneur, vous savez ce qu'il a dit dans sa parole ? Allez. L'avant-dernier texte, dans Romains chapitre 12. Certains peut-être le connaissent par cœur, ce texte, et si vous ne le connaissez pas par cœur, je vous encourage à le connaître par cœur, parce que il y a une vraie bénédiction qui est dans cet état d'esprit, donné, il vous sera donné. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, à donner vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est en train justement de déverser cette pensée qu'il faut chercher son confort, il faut chercher à se faire plaisir, il faut penser du temps pour nos loisirs, oh, qu'est-ce qu'on en a besoin ? Bien sûr que ces choses sont bonnes en soi. Mais si ça prend tout notre temps, alors ça devient des idoles. Et le Seigneur est celui qui nous offre ce moyen de bénédiction pour notre époque, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Regardez encore une fois le peuple d'Israël. Vous savez, le veau d'or. Ils l'ont pas choisi au hasard. Non seulement c'était un des animaux qu'ils élevaient, qui montrait que quand même Dieu était à leur service. C'était ça la façon dont ils avaient de voir Dieu. Mais vous savez où c'est qu'ils ont trouvé l'idée? En Égypte. Les Égyptiens, ils avaient toutes sortes de dieux et à tous leurs dieux, ils avaient tous une figure animale. Et entre autres, il y avait un dieu qui avait la figure d'un veau ou d'un taureau. Et ils ont trouvé en Égypte l'idée de se faire un veau d'or. Ils se sont conformés dans le siècle dans lequel ils étaient. Et le résultat, c'est qu'à cause de cette idolâtrie, il y en a un grand nombre qui sont morts ce jour-là. Alors, le Seigneur est un Dieu de grâce, on n'est plus dans cette époque de la loi où c'était assez carré, mais c'est quand même carré, spirituellement parlant. Parce que si on a une idole dans notre cœur, ben on est retranché de son peuple. Et le Seigneur nous invite à nous approcher de lui. Parce que ce matin, je ne suis pas là, justement j'ai lu ces versets exprès pour vous, je ne suis pas là pour dire, pour lancer des jugements. Justement, il est dit, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ah, ce matin, je ne suis pas là pour vous dire, voilà, il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Je suis là pour vous dire, pour vous donner, pour qu'il me soit donné. Je vous donne cette opportunité de saisir la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez que Dieu manifeste sa faveur de manière plus importante encore que par le passé? Est-ce que c'est possible? Oui, parce que à Dieu, rien n'est impossible. Rien de ce que Dieu dit n'est impossible. Mais encore faut-il que nous ne le limitions pas, que nous ne nous conformions pas au siècle présent, que nous ne fassions pas des idoles en nous inspirant de ce que le monde fait. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans le monde, mais tout n'est pas bien. Il faut beaucoup de discernement pour prendre ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Et puis de toute façon, il faut l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Je vous donne le dernier texte. Hébreux, chapitre 11 quand même, je tenais à lire un passage dans ce récit. Hébreux, chapitre 11, regardez l'exemple d'Abraham au verset 17. Ce que Abraham a fait par la foi, c'est bien expliqué dans la parole. Par la foi, Abraham offrit Isaac. Hébreux 11, 17. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son propre fils, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. La foi d'Abraham s'est manifestée parce qu'il a dû offrir quelque chose qui lui coûtait. Or, il ne l'a pas fait de manière insensée, de manière folle. Mais il l'a fait sur la parole de Dieu. Bien sûr qu'en soi, si on prend du recul et qu'on ne sait pas l'histoire avec Dieu, on a l'impression que c'est un fou d'offrir son fils en sacrifice. Mais quand on sait dans le contexte dans lequel il s'est passé, que Dieu avait fait une promesse que de son fils, il y aurait une multitude. Abraham savait que ça n'allait pas rester comme ça. Il savait que Dieu, et regardez ce qu'il est dit, il pensait que Dieu est puissant. Voilà la vision que Abraham, il avait de Dieu. Dieu est puissant. Frères et sœurs, est-ce que c'est notre vision que Dieu est puissant? Est-ce que c'est notre vision que Dieu est capable, quelle que soit la situation que nous traversons, d'étendre sa main, de toucher, de donner la vie, de ressusciter ce qui est mort, de changer le mal en bien, de faire une œuvre qui nous dépasse à nous? Si nous avons cette vision-là, alors comme en Abraham, nous allons manifester notre foi et Dieu, lui, va promettre de manifester sa grâce. Quand Dieu nous demande de quitter quelque chose, de sacrifier quelque chose, d'offrir quelque chose, c'est parce qu'il y a une promesse. Si on fait un sacrifice juste en pensant qu'on va mériter, ça marche pas. Mais si on offre au Seigneur ce qu'il nous demande parce qu'il nous fait une promesse, alors le Seigneur manifeste sa puissance. Alors le Seigneur manifeste sa grâce. Et comment est-ce que notre volonté, qui peut être salie par les façons de penser de ce monde, comment notre volonté peut-elle être purifiée? Mais quand on accepte de quitter ce que le Seigneur nous demande de quitter, quand on accepte d'offrir à Dieu ce qui nous coûte, c'est facile d'offrir à Dieu des choses qui ne nous coûtent pas. C'est facile, si je vous offrais 5 euros qui sont dans le porte-monnaie de Pierre, je pourrais le faire facilement, mais Pierre ça le dérangerait peut-être un petit peu. Pourquoi? Parce que ça ne me coûte pas, moi. Lui, ça va le coûter. Et des fois, on est là, on offre à Dieu des choses qui ne nous coûtent pas. Mais le Seigneur veut qu'on lui offre notre vie. C'est des choses qu'on a encore chantées ce matin. Je te donne toute ma vie. Et je crains le jour où on va se trouver devant le trône de Dieu et le Seigneur va nous faire passer Ces moments où on a chanté « Je te donne toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, t'es à toi, oui, tu es mon Dieu, tu es celui qui règne. Mais Seigneur, tu prends que 2% de mon temps libre, hein, par contre. » Non, Seigneur, je veux t'offrir ma vie, vraiment. Je veux t'offrir ce sacrifice de bonne odeur. Si ma volonté a besoin d'être purifiée parce que il y a le monde qui est là avec l'esprit du monde qui voudrait contaminer, Seigneur, viens me purifier, viens me renouveler dans ma vision. Seigneur, viens élargir mon cœur, viens me donner cette vitalité dans ma foi. Seigneur, tu as dit, donnez, il vous sera donné. Je veux te donner, Seigneur, tout ce que je suis. Non pas seulement pour que tu puisses me bénir, parce que tu l'as promis, tu vas le faire, mais surtout parce que c'est ta parole qui me le demande. Seigneur, viens manifester ta puissance. On va incliner les fronts, fermer les yeux. Et j'ai vraiment une parole sur le cœur pour quelqu'un, alors que je préparais ce message. J'ai vraiment cette parole sur le cœur, qu'on ne doit pas limiter Dieu. Et quelqu'un ce matin est en train de limiter Dieu dans sa vie. Quelqu'un a abandonné l'idée que Dieu pouvait réussir à faire quelque chose pour lui, parce que sa situation est trop compliquée. Mais je vous répète que rien n'est impossible à Dieu. Rien de ce que Dieu dit n'est impossible. Le problème, c'est pas que Dieu n'est pas puissant. Le problème, c'est que tu n'as pas cherché à savoir ce que Dieu dit dans ta situation. Mais rien de ce que Dieu dit n'est impossible. Approche-toi de la nuée comme Moïse. Sois renouvelé dans ta vision, que ton cœur s'élargisse. Donne l'opportunité à Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. Justement, tu es arrivé dans ce moment où tu ne peux plus rien faire. Parce que Dieu veut montrer que c'est lui qui est aux commandes, que c'est lui qui est capable, que c'est lui qui est puissant. Nos efforts humains ne servent à rien s'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ce matin, le Seigneur t'invite simplement à t'approcher de lui, de sa présence, à revenir à sa parole, à mettre sa crainte devant tes yeux. Et il va agir avec puissance. Frères et sœurs, voulons-nous nous faire un Dieu à la mesure de notre petite foi, ou voulons-nous placer notre foi dans le Dieu qui est immense? Et voulons-nous que notre foi soit à la mesure de ce Dieu immense et puissant? Ce matin, nous avons le choix. Le Seigneur n'est pas celui qui force quiconque, mais le Seigneur est celui qui appelle avec amour. Donnez, et il vous sera donné.